On se proposait avec Sœur Jean-Thomas, s'il y a lieu et donc on crée l'espace de liberté de parole pour ça, de faire deux petites choses avant de faire notre conférence du matin. La première, c'est que Sœur Jean-Thomas puisse répondre à vos questions, s'il y a des questions sur la Lectio Divina d'hier, sur la méthode, sur le contenu, sur... Et puis, moi je peux répondre à vos questions si sur l'ordre de contempler le mystère de la Trinité dans Saint Jean, il y a tellement lumineuse qu'elle vous écrase ou tellement ténébreuse qu'elle vous terrorise, sur lesquelles il faut revenir avant de continuer, parce qu'on va capitaliser sur ce qu'on a vu hier pour essayer de continuer à tirer quelque chose de plus en plus, je sais pas, puisque le plus concret c'est déjà la Trinité, mais essayer d'avancer avec ça pour essayer de voir comment le mystère de la Trinité éclaire vraiment la vie du couple. Alors, est-ce qu'il y a des questions autres, fondues, enchaînées, sur Lectio Divina, ce que vous avez lu hier ensemble, est-ce que ça vous a inspiré une question qui n'était pas dans le questionnaire, des désirs desquels la spécialiste qui est à votre disposition?
Il n'y a pas de question, tout était clair.
Peut-être pour vous donner un exemple, je ne sais pas si vous avez regardé le contexte, le contexte de la prière de Jésus, contexte proche, je vous proposais de regarder les versets juste au-dessus, avant même de comprendre, parce que on la comprend peut-être pas forcément, la prière de Jésus en Jean 17, on peut regarder les versets précédents. Si je prends juste au-dessus, « J'ai vaincu le monde », dit Jésus. Le monde dans l'évangile de Saint Jean, c'est pas si simple à comprendre, ça pourrait être « J'ai vaincu le mal dans le monde ». Et donc avant même de rentrer dans la prière de Jésus, on peut comprendre le rôle de la prière de Jésus, c'est de vaincre le mal dans le monde. Et donc c'est le rôle de ma prière. Donc vous voyez comment le contexte est hyper lumineux. J'ai pas besoin d'avoir fait 10 ans d'études, je regarde « J'ai vaincu le monde », c'est le verset précédent, et ça m'éclaire sur la parole de Dieu qui suit. Et garder courage. Qu'est-ce qui m'aide dans la vie à garder courage? C'est de prier le Père avec les mots de Jésus. Ça va, ça? Bien réveillé, effusé par l'Esprit Saint d'hier soir. Un contexte lointain, c'était... on est où dans l'évangile de Saint Jean? Je vous ai parlé. Les grands discours de Saint Jean, de Jean 13 à Jean 17, un discours de Jésus. Jésus lave les pieds de ses disciples, c'est l'institution de l'Eucharistie de Jean 15, Jean 16, Jean 17. Jésus fait une grande homélie. Si vous la lisez à haute voix, c'est hyper long. Et Jean 18, c'est quoi? C'est la passion. Ça veut dire que c'est le discours d'adieu de Jésus. Il y en a plein des discours d'adieu dans la Bible. Quand Moïse va mourir, il a quelque chose à dire. Quand Jacob, dans la Genèse 49, sent qu'il va mourir, il bénit ses enfants. Là, le discours d'adieu de Jésus, il est original parce que c'est pas une prophétie. Les autres, ils disaient plutôt des belles choses à leurs enfants ou à leurs successeurs, en disant « tu vas vivre cela au futur ». Jésus, il dit des choses au présent, dans le texte qu'on avait, verset 5 maintenant, verset 7 maintenant. Donc Jésus, déjà, ce qu'il a accompli, vous voyez, c'est assez beau, c'est pas pour le futur, c'est déjà ce qu'il a fait. Et son nom, c'est une prière. Est-ce que le testament qu'on a envie de laisser au suivant, c'est de notre mort, les derniers mots qu'on va dire, ce sera une prière. Après, Jésus rentre dans le contexte lointain, c'était de nous éveiller sur le fait que ce que Jésus a envie de nous livrer de plus profond de son cœur, c'est la manière dont il parle à son Père. Est-ce que j'ai déjà mis par écrit une de mes prières à Dieu, à Jésus, à l'Esprit Saint? Est-ce que je l'ai déjà faite lire à mon conjoint? Est-ce que j'ai donné à mon conjoint ce que j'avais de plus précieux, comme Jésus le fait, qui est ma prière, alors soit écrite, soit il m'entend prier. Le testament, ce qu'il y a de plus grand dans le cœur de Jésus, c'est comment il parle à son Père. Même, entre parenthèses, les mots les plus répétés. C'était quoi le mot le plus répété du texte? Donner, gloire, il y en avait plusieurs. Donner, qui donne quoi à qui? Si je regarde le verset 6, manifester ton nom aux hommes que tu as tiré du monde pour me les donner. Ce que le Père donne à son Fils, c'est les hommes, c'est nous. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Je suis un don éternel entre le Père et le Fils. Le Père et le Fils se racontent leur journée qu'ils ont passé ensemble, qu'est-ce qu'ils font? Ils se donnent les hommes. Le plus beau cadeau qu'ils ont à se faire, c'est nous. Et donc, le père donne Florence au fils en disant, je voudrais te faire un cadeau ce soir, je t'offre la vie, et pardon, je prends les prénoms que je connais, je t'offre la vie, le cœur et l'âme de Florence, parce que je la trouve belle, et je te l'offre ce soir. Et le fils fait l'âme et la vie aujourd'hui de ce qu'a vécu Yves dans sa vie. C'est un don éternel entre le père et le fils. Ce qu'il se donne dans l'éternité, c'est moi. C'est chacun de nous. Donc vous voyez comment un texte nous fait rentrer dans l'intimité du père. Faudrait peut-être pas dire qu'il y a plus et moins, parce que voilà, il y a un enseignement différent. Quand Jésus nous donne la prière du Notre Père, est-ce que c'est pas une prière qui est davantage pour nous? Il l'introduit en disant, quand vous priez, dites Père. Donc on voit bien que c'est pour nous. Elle pose des questions, cette prière. Jésus qui dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Jésus, il est le pain de vie et il demande le pain. Bon. Et puis après, pardonnez-nous nos offenses. Jésus qui demande à son Père de lui pardonner ses offenses. Comment ça, ça devrait... Donc on voit bien que c'est une prière qu'il nous confie, mais qui est plutôt de notre côté. La prière dans l'évangile de Saint Jean, c'est vraiment la prière du Fils qu'il peut vivre, lui. C'est, du coup, il nous introduit dans sa prière comme fils du Père. Et justement, il ne demande pas le pain pour chaque jour, il demande à Dieu de lui donner les hommes. La nourriture de Jésus, ce n'est pas le pain c'est notre nourriture à nous. La nourriture de Jésus, c'est la vie des hommes. Donc, c'est le Notre Père, une prière du côté des hommes, comment prier le Père. Le Jean 17, c'est davantage Jésus qui prie son Père, et je peux l'introduire dans cette prière. Et aussi, tout à l'heure, la prière du Notre Père, elle demande beaucoup quand même à Dieu. Et là, dans la prière de Jésus, on voit que Jésus parle de lui. Je t'ai glorifié, j'ai manifesté, je leur ai donné, je suis sorti. Donc, la prière de Jésus, et notre prière aussi, c'est, ce n'est pas qu'une prière de demande, même s'il n'y a pas que ça, parce que le début du Notre Père est un peu différent, mais c'est choisir de dire qui je suis dans le regard de Dieu. C'est ça que fait Jésus en priant son Père, il parle de lui. Donc, ça n'est pas qu'une prière de demande, c'est contempler qui je suis dans le cœur de Dieu et le lui dire. Vous voulez des petites questions?
Oui, ces petites questions successives.
Oui, celles-là, elles étaient sélectives de la grande fiche terrorisante, parce que c'était un... Voilà, mais parce que c'était un discours, et du coup, il y a plein d'outils qui tombaient. La fiche que je vous ai donnée, elle a l'avantage de s'appliquer et à l'Ancien Testament et au Nouveau. Il n'y a rien de spécifique au Nouveau. Vous pouvez même le faire sur un psaume, ce qui est assez beau. Je peux vous donner les tendances exégétiques de la lecture des psaumes, parce que vous avez les modes vestimentaires, mais vous connaissez peut-être moins les modes. Aujourd'hui, les psaumes, on va les lire pas mal dans leur contexte. Si vous prenez un psaume, vous pouvez toujours le lire dans la lumière du psaume précédent. Peut-être que dans le psaume précédent, il y a un cri, il y a la réponse au cri. Donc voilà, c'est un peu des amplifiés qui a repris le contexte, qui a repris. Mais après, vous pouvez repiocher là-dedans. Là, c'est beaucoup moins riche si c'était un récit. Dans un récit, il aurait quand même fallu regarder les lieux, les personnages, les temps, etc.
Les trois questions, tous les jours, elle nous envoie parler.
Ouais, c'est ça, avec les réponses. Ce que je peux vous donner, peut-être en cadeau, mais il faudrait que je vois avec Yves comment on fait du point de vue matériel. Je vois que vous n'avez pas très envie d'écrire sur votre Bible, parce que c'est la Bible de votre grand-mère, ou vous n'avez pas les crayons de couleur, je ne sais pas. C'est, donc, ouais, surtout. Les frates, quand vous préparez, j'ai la Bible de Jérusalem en document Word, ça veut dire que vous pouvez imprimer la page. En fait, vous ne le trouvez pas sur Internet, parce qu'on est le seul pays à ne pas mettre la Bible catholique en ligne gratuite. Donc, les Américains l'ont fait. On a des outils bibliques quand on travaille la Bible. Donc, il y a des étudiants qui l'ont refabriqué avec un document Word. Et en fait, ça a un avantage. Vous pouvez l'imprimer, donc vous pouvez écrire dessus. Et c'est un deuxième outil. Sous Word, ça vous fait une concordance. Dans l'évangile d'aujourd'hui, on est à Capharnaüm. Et vous pouvez vous dire, c'est quoi la grâce de Capharnaüm? Si vous allez à Lourdes, il y a une grâce particulière à demander à Lourdes. Si vous allez à Cotignac, il y a une grâce de Cotignac. Si vous allez à Capharnaüm, parce que nous allons à Capharnaüm aujourd'hui, dans l'évangile, quelle est la grâce à demander? Bien, vous tapez Capharnaüm dans votre document Word, en haut à droite, dans la loupe, là, de recherche. Ça va vous donner tous les lieux dans l'évangile de Matthieu où Jésus est à Capharnaüm. Vous allez découvrir la grâce de Capharnaüm. C'est un lieu de guérison. C'est Lourdes, Capharnaüm. C'est là où il guérit tout le monde. Donc, avant même de lire l'évangile, je sais déjà que la grâce... Est-ce que vous l'envoyez? Alors, est-ce que je vous prends vos adresses mail? Vous pouvez travailler là-dessus. L'évangile d'aujourd'hui, il y a la lumière. Une lumière se lèvera. Vous voulez savoir ce que c'est que la lumière dans l'évangile de Matthieu? Parce que la lumière se lève, le soleil s'est levé. Elle se lève tous les jours, vous voyez. Donc il me faut une lumière biblique. Donc je cherche, je mets lumière là, et puis ça me donne toutes les emplois. Et puis comme je vous ai dit dans la lecture sémantique, le premier emploi donne le plus de lumière sur le mot. Eh bien, vous tapez dans la Genèse, lumière, et vous découvrez ce que c'est que la lumière dans la Bible. Et il y a très peu d'emplois. Qui sont dans les phrases, je trouverais ça super de dire, ça vous fait la concordance en même temps. Et vous mettez le mot tout simplement. On va pas le mettre sur le site parce que on va se faire attraper. Je veux pas mettre le Bible de Jérusalem sur. Il y a un projet qui est en train de se faire, un dominicain qui est en train de travailler pour le mettre en ligne.
Tutoriel, elle veut faire un tutoriel sur internet.
Je peux vous envoyer la fiche, elle est déjà rédigée. Alors j'ai mis mes couleurs, mais on n'a rien à faire que je fasse en rose, en vert ou en bleu. J'ai fait une page à quatre où je chronologiquement, qu'est-ce que je fais quand moi je lis la Bible, je souligne les verbes, j'encadre le lieu, je regarde. Alors, encore une fois, moi je développe la partie Dieu, enfin faire parler le texte. Si vous avez une vie mystique très grande, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle avait aucun outil biblique. Elle n'avait pas la Bible sur Internet, elle n'avait même pas la Bible tout court, elle l'avait apprise par cœur. Donc vous voyez, avec un cœur aimant, j'ai accès à la parole de Dieu. Hein. Mais moi, je suis prudente avec moi-même, avec mon cœur aimant. Et donc, ne sachant pas très bien où j'en suis, je me rattrape avec les outils bibliques. Sur Internet, vous trouverez les différentes traductions par verset. Comme ça existe. Si vous avez à la maison le texte liturgique et la Bible de Jérusalem, on peut comparer. Je ne suis pas du tout dans la perspective de se battre sur un mot en disant « mais je te dis que ça veut dire ça, mais non, je... » Les deux sont justes, les deux précisent et donnent une lumière sur le mot. La traduction liturgique est plus... Après, voilà, on peut préciser selon les Bibles que vous avez. La Bible de Jérusalem est globalement très bonne sur le texte de l'Ancien, du Nouveau et dans les notes de Bible. La Tob est très bonne sur la traduction de l'Ancien Testament, elle est presque plus proche du texte, c'est une traduction excellente sur les notes du Nouveau Testament. Vous voyez, on est obligé de prendre chez chacun. La Bible d'Ostie est meilleure dans l'Ancien que le Nouveau, parce que c'est les mêmes qui ont traduit l'Ancien et le Nouveau, on n'est pas bon et en hébreu et en grec, donc la Bible de Jérusalem a pris des spécialistes de l'hébreu et des spécialistes grecs. Donc, faire un beau cadeau de Noël à votre conjoint, ça vous coûtera 10,50 €, je crois. C'est la traduction de Sœur Jeanne d'Arc, sur les quatre évangiles, parce que dans Frat, on fait plutôt lecture sur les poches. C'est une traduction en français, très proche du grec, et avec des notes géniales. Tout est génial dans ce qu'elle dit. Et donc, sur un évangile, il n'y a pas beaucoup de notes, je crois l'exemplaire, hein, mais voilà, ça peut être traduction à disposition. Vous avez le droit au volume 2 avec Frère Denis pour les questions. Il apprend l'hébreu, donc. Aussi répondre à des questions.
J'ai un professeur exceptionnel d'hébreu en la personne de ça. Ils ont ça les pieds dans la piscine l'été. Les photos compromettantes, pas sur Internet.
sur ce qu'on a essayé de regarder hier, sur cette découverte du mystère trinitaire dans l'évangile de Jean, est-ce qu'il y a des choses qui répondent? Mais je vais essayer de vous présenter quelques petites clés de lecture. Est-ce que ça va, ce qu'on a essayé de voir? On va continuer là-dessus, mais il y a peut-être des questions de compréhension assez claires, hein, parce que je suis passé très vite, donc je veux bien revenir dessus s'il y a... On va revoir un petit peu ce matin. J'ai commencé à dire un petit quelque chose de ça hier en disant, dans ce qu'on appelle l'économie divine, c'est-à-dire la manière dont le mystère de Dieu se donne à l'humanité, le Père est celui qui reste caché. Le Père n'est pas celui qui se rend visible. Le Père n'apparaît pas sous une forme humaine. Le Père parle dans la vie de Jésus au moment de son baptême ou de la transfiguration, mais c'est celui qui est dans la Trinité la source de tout et donc qui envoie le Fils pour nous révéler le visage du Père qu'il est lui-même et qui donne l'Esprit Saint. Les deux visages de Dieu pour nous, c'est le Fils et c'est l'Esprit Saint. Mais la paternité de Dieu, qui est le Père? Je vais vous faire un week-end d'histoire de l'art sur la Trinité qui serait absolument passionnant pour vous montrer la manière dont on a représenté le visage du Père dans l'iconographie chrétienne. C'est absolument passionnant d'essayer de voir quel visage a Dieu le Père. Et c'est le plus difficile à représenter.
Jésus, il y a les icônes, il y a le suaire, le Saint-Suaire, celle de Manopello. Donc, on a des petites choses iconographiques et aussi historiographiques qui nous disent un peu qui est Jésus. L'Esprit Saint, dans l'action qu'il a sur nous, par découvrir, c'était aussi dans les questions qu'on vous a proposées, la fin du tout le plus immédiat. Et c'est aussi pour ça que Jésus, c'est celui qui, en nous disant qu'il prie Dieu comme un père, nous aide à entrer dans cette filiation pour qu'on découvre la paternité de Dieu sur nous. On n'a pas un contenu de ce qu'est Dieu comme père, mais on a une relation vivante de Jésus qui nous permet de nous tourner vers... ça reste, et votre question est très juste pour ça, ça reste quelque chose qui nous dérange, parce que c'est ce que j'ai essayé de vous dire rapidement hier par rapport à la manière dont les Juifs reçoivent cette révélation d'un Dieu père. Il est trop proche pour les Juifs, un Dieu qui se fait père, et concrètement père d'un fils. Le rôle de Dieu, c'est de rester dans sa divinité. Mais un Dieu, dans notre père, il y a aussi ça, il y a aussi cette proximité de Dieu qui fait de nous des fils, et en même temps, Dieu reste Dieu. Et donc, on est mal à l'aise, mais on est obligé d'avoir une attitude de foi dans ce que Dieu veut nous éclairer nous-mêmes sur cette réalité. Dans l'accompagnement spirituel, il y a un peu deux lieux. C'est comme ça que je simplifie les choses, mais c'est une simplification. Le lieu facile de l'expérience de la paternité de Dieu dans sa vie spirituelle. Par en bas et par en haut. Par en bas, c'est dans la confession. Quand je me confesse, je laisse Dieu venir prendre possession de ce qui en moi est fragile pour me dire son amour miséricordieux de Père. Donc Dieu Père vient éclairer ma fragilité pour me dire qui il est et qu'il ne me juge pas sur mes défauts, mes limites, mes péchés récurrents, etc. Par en haut, l'autre lieu d'expérience de la paternité, eh bien je pense que c'est quand je me laisse regarder, par exemple dans l'accompagnement spirituel, par quelqu'un qui devient un peu pour moi une autorité spirituelle à qui je confie la croissance de mon âme, et qui me dit de manière positive les beaux lieux où Dieu m'appelle à grandir. Donc j'allais dire, Dieu m'en sert dans sa paternité, dans ma fragilité, dans l'expérience qu'il m'aime, comme dit Thérèse d'Enfant Jésus, même si j'avais douté que Dieu m'aime. Quelle confiance. Par en haut, d'être sûr que parce que Dieu est plus grand que moi et qu'il est un cœur absolu que le mien, il va toujours tirer mon cœur vers quelque chose que je ne suis pas. La qualité de Dieu, c'est celle qui me fait découvrir les grandes audaces de ma vie. Ah, j'ai besoin d'un lieu spirituel d'expérimentation de l'audace de Dieu pour moi. C'est ça la paternité de Dieu. Comme un père qui pousse son enfant à grandir au-delà de ce qu'il est aujourd'hui. Si le père de la terre ne donne à son fils de la terre ou à sa fille de la terre que ce que l'enfant est capable de vivre aujourd'hui, il l'aide pas à grandir. C'est l'horizon qui va plus loin, au-delà de son état d'aujourd'hui, vers quelque chose de nouveau. Et là, il y a aussi ce regard de l'enfant qui regarde celui qui lui montre quelque chose qu'il ne voit pas. Ouais, il y a plein de commentaires sur Notre Père qui sont hyper beaux, que vous pouvez trouver facilement, et qui essaient d'expliciter un peu comment, dans le Notre Père qui est la prière de Jésus, nous entrons dans un regard plus profond. Mais je vais en reparler, je vais en dire un petit mot. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci en tout cas pour... Parce que ça, c'est une vraie question qui reste, cette paternité de Dieu, elle reste quelque chose qui est trop grand pour nous. Et donc, il faut constamment se remettre en face de ça, et en phase avec ça, pour se dire, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Comment... Il n'y a pas de questions. Avant de commencer, je voudrais juste faire une petite remarque, un peu indiscrète, mais pourquoi je dis qu'elle est un peu indiscrète. Je voudrais nous remettre dans ce que Dieu est en train de faire ce week-end. Il est en train de se passer quelque chose dans votre cœur de couple ce week-end. Et je vous nomme Jésus. Parce que si vous prenez au sérieux, et vous êtes là, donc vous prenez au sérieux ce qu'on fait et ce qu'on se dit, eh bien, dans les rencontres que j'ai pu avoir avec certains d'entre vous, en couple ou personnellement, dans aussi cette belle... soirée de prière qu'on a eue avec l'Esprit Saint, et je remercie aussi notre frère Sébastien de se mettre au service de ça. Eh bien, le Seigneur ouvre vos cœurs de couple. à quelque chose qui est en marche et que vous ne savez pas bien vous dire à vous-même et que l'Esprit Saint avec le Père et le Fils est en train de vous dire. Et donc moi j'essaie juste de mettre des mots, vous voyez, je suis à la plus mauvaise place, un peu comme Sœur Jean Thomas, on est à la plus mauvaise place pour vous dire ce que Dieu fait dans votre couple. On n'est pas couple, même si on est frères et sœurs de sang, et donc nous on est témoins impuissants des merveilles que Dieu fait dans votre vie. Mais les acteurs et les spectateurs, d'abord les acteurs, les contemplateurs, faudrait dire, de ce qui se passe dans votre vie de couple, c'est vous. Et quand il y a une question dans votre vie de couple que vous laissez éclairer par l'Esprit Saint, dans un week-end de prière, dans un week-end un peu contemplatif, eh ben, il se passe déjà quelque chose. Et quelque chose, il se passe pas d'abord dans la tête, il se passe d'abord dans la vie du couple. Et ça, c'est immense. Vos couples sont en train d'être visités par la Trinité. La visite annuelle de la chaudière, il y a la visite annuelle des impôts, du couvreur, enfin, il y a plein de visites annuelles. Ben, ce week-end, c'est la visite annuelle de l'Esprit Saint et de la Trinité dans votre couple. Vous voyez, soit pour 75 euros, c'est moins cher que la visite de la chaudière. Par personne, donc évidemment, c'est plus compliqué. En vrai, c'est ça qui se passe. Je le dis avec humour, mais en fait, je vous le dis hyper sérieusement. Et moi, je suis émerveillé de vous, en fait. Et je vous le dis aussi au nom de Jésus. Je suis émerveillé de ce que vous osez être en laissant faire la visite annuelle à la Trinité. Parce que vous voyez que ça vous dérange. Cette Trinité qui est de votre couple, elle vous laisse pas là où vous en êtes. Elle vous laisse pas végéter. Et quand je dis vous, c'est, je pense à moi aussi, d'abord à moi, malheureusement, jusqu'à vous. Elle nous laisse pas végéter là où on en est parce que elle nous révèle un plus grand que nous. Elle nous révèle que le Dieu des armées a besoin de notre petit cœur, comme vous disiez, Sœur Jean Thomas. Mais qu'est-ce que font les fils dans la Trinité? Eh bien, à la lumière de Jean 17, Thérèse a raison de dire à Jésus, si je voulais te dire mon amour, il faudrait que je t'emprunte ton propre amour. Donc Thérèse se met à la place de l'Esprit Saint entre le Père et le Fils. C'est exactement ce que Sœur Jean Thomas prière sacerdotale du chapitre 17. De ce Fils qui se regarde de toute éternité, il se regarde à travers votre couple. Il faut qu'il soit émerveillé. Et c'est ça que vous essayez de vivre. Et que ça, ce week-end, on a tout gagné, quoi. L'Esprit Saint a tout gagné. La visite annuelle a mis tout ce qu'il fallait d'aplomb. Et pourtant, voilà, c'est un début. Et donc, Dieu est pauvrement serviteur de ce travail, en étant celui qui vous fait les conférences, avec vous, dans cette contemplation. Et donc, je voudrais vous proposer deux petits ce matin et cet après-midi. Vous l'avez sur la feuille générale que je n'ai plus, qui a disparu. Et ici, là. Pas à pas, notre petit programme. Je voudrais regarder avec vous ce matin, dans le prolongement de ce qu'on a essayé de commencer à décrypter hier, et de regarder la Trinité pour elle-même, entre guillemets. Quel est le Père dont nous parle le Fils? Quel est le Fils que nous révèle Jésus? Fils de Dieu, Fils du Père, Fils de l'homme? Celui qui dit « Je suis », comme Dieu se révèle à Moïse dans le buisson ardent. Celui qui nous donne l'Esprit Saint. On va essayer de retravailler un petit peu l'Esprit Saint. Et là, je voudrais regarder avec vous ce matin cette question. Comment chacune des personnes divines me révèle l'amour de Dieu d'une manière particulière? Dieu est un être personnel. En simplifiant, on dirait Dieu est une personne, Dieu est quelqu'un. Ça n'est pas une force, ça n'est pas un esprit pur. C'est un esprit aimant. Un esprit plein d'amour, un esprit qui n'est qu'amour et qui s'intéresse à toute ma vie. Alors pour vous donner, vous voyez, quelque chose d'un peu goûtu, comme diraient les Lyonnais, d'un peu goûtu sur cette manière dont la Trinité peut être vécue de manière existentielle, je vous cite deux petites citations de Saint Bernard de Clairvaux, qui a vécu en 1090-1153, donc fin du XIe siècle, début du XIIe siècle, et il a fait des conférences, des sermons sur le cantique des cantiques. Et alors, son émerveillement, et vous allez voir que c'est concret, c'est un mystique qui parle de choses concrètes de l'amour humain, il ouvre le Cantique des Cantiques, et il voit cette première phrase du Cantique des Cantiques, où la bizarre, il ne le dit pas comme ça, mais c'est quand même ça qu'il dit, c'est bizarre que l'Esprit Saint qui ne se répète jamais, dans ce début du Cantique des Cantiques, dise trois fois la même chose, parle trois fois du baiser, qu'il me baise d'un baiser de sa bouche. Et ça, là, on va partir là-dessus, comme en 40, pour essayer de comprendre pourquoi l'Esprit Saint parle trois fois du baiser. Vous avez déjà la réponse. À cause de la Trinité, évidemment.
mais il va le déployer de manière différente. Alors je vous lis deux petites citations. Le Verbe qui s'incarne, c'est dans le deuxième sermon sur le Cantique des Cantiques, le Verbe qui s'incarne est la bouche qui baise. Et le Verbe, c'est le baiser de Dieu. Pas mal de dire ça. Quand vous faites un bisou à votre conjoint, eh ben, il y a quelque chose de trinitaire. Le Verbe qui s'incarne est la bouche qui baise, la chair qu'il prend est la bouche qui reçoit ce baiser. Vous voyez, c'est un baiser langoureux, allez, osons. Un baiser pas sur la joue. Baiser qui se forme sur les lèvres de celui qui le donne et de celui qui le reçoit. Donc, vous voyez, le baiser, c'est un acte hein, qui embrasse, l'autre qui se laisse embrasser et qui embrasse en retour. Le baiser qui se forme sur les lèvres de celui qui le donne et de celui qui le reçoit est la personne composée de l'un et de l'autre, Jésus-Christ, l'homme médiateur entre Dieu et les hommes. Le baiser, le premier baiser de Dieu, c'est l'unité des deux natures qui s'embrassent dans la personne du Verbe. Fallait oser quand même. Hein. C'est pas moi, c'est Saint Bernard. Voilà une hyper belle manière toute simple, vous voyez, qui n'est pas encore trop théologique, de regarder que le Christ incarné, c'est le baiser de Dieu à lui-même. Et puis il y a deuxième sorte de baiser, donc c'est, on pourrait dire, la personne, la nature divine du Christ embrasse sa nature humaine, et c'est ça le cadeau de Dieu à l'humanité. Et puis il y a une deuxième manière dont Saint Bernard, un peu plus loin dans le sermon 8, va redévelopper ça. C'est le baiser, pas simplement de la divinité du Christ à son humanité, mais c'est le baiser du Père et du Fils. Le Père aime le Fils et l'embrasse avec un amour singulier. Le Très-Haut embrasse son égal, l'Éternel son co-éternel et le Dieu unique son Dieu. Vous avez un peu les fous de Dieu, Élisabeth de la Trinité. Je n'ai pas repris la citation, mais je vais vous la retirer de tête dans la note intime numéro 11 que vous trouvez dans ses œuvres complètes. Ce n'est pas la thématique du baiser, mais c'est quasiment la même chose. Elle va... Donc, dans cette note intime qui s'appelle « Être est une méditation, ce que c'est que d'être épouse de Dieu ». Et donc, elle essaye de dire toutes les qualités de l'épouse. Et elle termine cette petite prière, méditation, en mettant dans la bouche de Dieu Père la parole de Dieu dans la Genèse qui dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui lui soit assortie ». Et Élisabeth de la Trinité lit cette parole de Dieu créateur sur sa créature. La manière dont le Père éternel regarde son Fils éternel. Il n'est pas bon que l'homme, mon Fils éternel, soit seul. Je veux lui faire une aide qui lui soit assortie. Et alors, pas de chance pour vous quand vous venez à Troussure m'écouter. Et cette aide, Élisabeth de la Trinité, c'est l'Église. L'Église de temps en temps. Et donc, vous voyez, le Père éternel crée une épouse qui est l'Église pour son Fils éternel, pour qu'il y ait un mariage mystique. De l'enfant Jésus qui va faire son faire-part de mariage au moment de sa procession, de sa profession. Le Père éternel vous a la joie de vous annoncer le mariage de son Fils, le Verbe divin, avec Mademoiselle Thérèse Martin. C'est encore pire que la Légion d'honneur d'une famille, et de l'autre côté, il n'y a rien. Quoi. Là, c'est Monsieur et Madame Martin ont la joie de vous faire part du mariage de leur fille Thérèse avec le Verbe de Dieu. Le consentement des époux sera reçu par l'Esprit Saint. Voilà l'audace des mystiques. Vous voyez, que Dieu se fait proche. Et le mystère de la Trinité, là, il n'est pas abstrait du tout. Il est hyper concret. Il est vivant. Il est aussi simple qu'un faire-part de mariage. Il est aussi concret qu'un baiser. Il est ce que Dieu vient faire de plus intime dans le cœur de l'homme. Alors, je voudrais regarder ces trois petites choses avec vous, en gardant notre perspective trinitaire. L'amour du Père. Qu'est-ce que fait l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Vous voyez, si Dieu est le Dieu amour qui me dit l'amour de Dieu de trois manières différentes et de trois manières personnelles différentes, il faut bien que j'en fasse quelque chose. Donc ça, il faut un peu faire redescendre cet amour de Dieu dans mon cœur. Le fait d'avoir un Père au ciel, qu'est-ce que ça change dans ma vie chrétienne? Ça change plein de choses. Donc c'est ça qu'on va regarder d'abord sur quelques points. L'amour du Père m'engendre à une vie nouvelle. Après, on va regarder comment l'amour du Christ, comme frère et ami, me montre jusqu'où je suis aimé, et puis comment l'amour de l'Esprit Saint fait continuellement grandir mon amour de Dieu et des autres jusqu'à l'infini.
Pour parler de l'amour du Père, vous voyez, déjà ce dont il faut bien se rappeler et qui est compliqué et qu'on a dans le premier verset du prologue, c'est que la paternité de Dieu, sa grande différence, sa plus grande différence avec la paternité et la maternité humaine, c'est qu'elle n'est pas dans le temps. Il n'y a pas un moment où Dieu n'est pas Père. Dieu a toujours été Père. Donc la paternité de Dieu, il n'y a pas un temps d'avant et un temps d'après où Dieu ne serait pas Père, où Dieu deviendrait Père du Fils. Dieu a toujours été Père. Il n'a jamais été autre chose que Père. Il a toujours été intégralement le Père du Fils. C'est pour ça que le prologue de Saint Jean nous dit « Dans le commencement », la traduction littérale, « Dans le commencement, depuis le commencement qui n'est pas un temps, était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. » Il y a toujours eu l'unité entre le Verbe et la divinité, si on veut simplifier,
éternel et le Père éternel, et il y a toujours eu une unité entre les deux. Ils ont toujours été ensemble, ils n'ont jamais été distincts l'un de l'autre. Distincts dans le temps où il n'y aurait eu qu'un des deux. Et donc quand nous prions le Père par Jésus. Donc encore une fois, les deux sont toujours inséparables, mais je peux quand même, comme Élisabeth de la Trinité en la prière que je vous ai donnée hier, « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, ô mon Christ aimé, Verbe éternel, parole de mon Dieu, feu consumant, esprit d'amour, et vous, ô Père, penchez-vous vers votre petite créature. » Je peux, en gardant cette foi trinitaire, m'adresser à quelqu'un. Ce quelqu'un, il a une personnalité tellement riche qu'il est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Et je peux aussi vivre cette paternité, cette filiation et cette intimité d'amour sous la lumière de Dieu. Chaque fois que, vous voyez, que Dieu Père est engagé, eh bien il donne la vie. Il y a un lieu que j'aime bien parce que je le trouve, en plus pour vous les familles et sans doute pour vous les épouses et les mères, particulièrement étonnant, c'est cette visitation de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth, vous voyez, okay, où Dieu aime bien la complexité. Je pense que Dieu, dans l'éternité, aimera bien les horlogers suisses, vous savez, qui créent des montres de plus en plus complexes pour le plaisir. Dieu aime bien la complexité. Et pour parler à Élisabeth, qui porte Jean-Baptiste, à Marie, qui porte l'enfant Jésus, l'enfant Jésus fait tressaillir Jean-Baptiste, qui tressaille dans le sein de sa mère, et Élisabeth s'adresse à Marie en disant « Tu es bénie entre toi. » Et c'est hyper simple. Ça aurait pu éclairer Élisabeth en lui donnant la foi immédiatement dès qu'elle aurait été enceinte de Jean-Baptiste, en découvrant que Jean-Baptiste était le précurseur. Eh bien, Dieu aime bien passer par des intermédiaires. À des week-ends de couple, si vous êtes déjà venu à tous, vous avez déjà entendu. Moi, j'admire le bon Dieu qui ose passer par votre cœur de parent pour éduquer vos enfants. Vous voyez l'audace de Dieu. Il ferait ça bien mieux que vous. Et vous le savez bien au fond de vous-même. Soyez honnête. Et pourtant, il choisit d'avoir besoin de vous. C'est bizarre quand même. Nul n'est jamais mieux servi que par soi-même. Regardez tout ce que vous n'avez pas bien fait, tout ce que vous faites imparfaitement, tout ce qui vous coûte. Dieu rien ne lui coûte parce qu'il fait tout par amour infini. Eh bien, il a besoin de cette église poussive, intermédiaire que ce que nous sommes, pour parvenir à ses fins. Et en faisant ça, vous voyez, quand Jean-Baptiste tressaille dans le sein de Marie, eh bien, c'est à cause de la présence de Jésus. Il y a une vie qui jaillit dans le petit Jean-Baptiste en sentant d'une manière charismatique la présence de Jésus, qui nous dit quelque chose. Quand Dieu vient sur la terre et sur la terre de notre cœur, tout bouge, quoi, tout tressaille. Est-ce que je tressaille de ce que Dieu est entré dans ma vie? Et nous avons déjà été convertis par Jésus. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste comme tressaillement dans notre cœur de ce Dieu Père qui vient nous dire qu'il nous aime à l'infini? Est-ce que c'est encore un lieu d'émerveillement? Malgré la vieillesse d'Élisabeth, malgré le fait qu'elle est adulte et que Jean-Baptiste est encore un tout petit enfant qu'elle sent à peine, est-ce que c'est la première fois qu'elle le sent? On n'en sait rien. Gérons-nous cette certitude de sa présence. Quelque chose, vous voyez, qui nous dit que Dieu est source de vie. D'une manière
réel, symbolique et aussi pour notre cœur. Est-ce que j'arrive à en faire quelque chose de ça ? Je vais lire tout, je vous prends juste la petite phrase sur le baptême, en Matthieu 3, 17. Au moment du baptême de Jésus, une voix venue des cieux disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. » Et le regard du Père sur le Fils, c'est que c'est un Fils bien-aimé. Il ne regarde son Fils que comme celui à qui il donne tout son amour. L'amour du Père pour le Fils est source de l'existence du Fils, est source de la vie du Fils, est source de... des expériences que la nature humaine de Jésus fait de cette présence de Dieu, son Père. Alors pour nous, cette présence de Dieu, cette paternité de Dieu, eh bien, elle est source de vie éternelle. On trouve ça à plein d'endroits dans le Nouveau Testament. Je prends juste un petit passage de Jean, chapitre 3, verset 14. « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque croit ait par lui la vie éternelle. » J'aime bien la manière dont le catéchisme de l'Église catholique corrige un peu saint Thomas. Et pour saint Thomas d'Aquin, qui est hyper formel, l'homme est composé d'une intelligence, d'une volonté. Dans l'intelligence s'enracine la foi, et dans la volonté s'enracine la charité. Et entre les deux, qui fait croître la charité, il y a l'espérance. Donc il y a besoin de l'intelligence pour que la foi soit donnée, et il y a besoin de la volonté pour que la charité soit donnée. En tant qu'aristotéliste, entièrement d'accord avec ça. Ça fait de la foi une connaissance surnaturelle, parce que son objet est Dieu et donc dépasse l'intelligence, qui rentre, si vous voulez, dans l'entonnoir limité de l'intelligence. Ça, c'est qu'on comprend la foi, et c'est légitime. Mais le catéchisme de l'Église catholique va plus loin, en étant plus biblique que saint Thomas, qui n'est pas une critique à saint Thomas, réduire ce qu'il regarde pour regarder un aspect essentiel. Le catéchisme de l'Église catholique regarde beaucoup plus la foi comme saint Jean la regarde, afin que quiconque croit par lui ait la vie éternelle. La foi devient source de vie éternelle. La foi, elle est existentielle. La foi, elle engage tout moi. Pas avec Saint Jean Thomas, quand moi j'étais ado, je ne sais pas s'il lui a dit à elle d'une autre manière, moi il me disait, à propos de la foi, quand je lui posais mes questions de crise de foi, j'avais 15-16 ans, il disait, la foi c'est comme une femme enceinte. On n'est pas à moitié enceinte. Soit on l'est, soit on ne l'est pas. Soit on a la foi, soit on ne l'a pas. Et si on a la foi, eh bien c'est comme quand on est enceinte, ça change quelque chose à ma vie. Je ne peux plus vivre de la même manière. C'était assez simpliste comme comparaison, mais c'était assez bien vu. Vous voyez, du côté de la foi existentielle. Est-ce que le fait que je crois en Jésus, ça me fait vivre autrement ? Dans mon couple, dans mon métier, dans mes relations sociales, dans mes intentions de vote. Peut-être que vous allez vous rendre à tôt cet après-midi par les voter à la primaire. Eh bien, je choisissais un candidat qui a une perspective trinitaire sur son programme politique. J'allais me coucher là, je crois. Je reste à ce que je connais, plus biblique que logique, sinon je crois qu'on va partir dans le décor. Il faut que Sébastien Marie vienne finir la conférence. La foi est une connaissance existentielle qui devient source de vie éternelle. C'est ça l'exercice de la paternité de Dieu. Dieu me donne quelque chose qui m'ennoblit dans toute ma vie. Et ça, j'espère, chers frères et sœurs, que quel que soit l'âge du couple que vous avez, l'âge de la foi que vous avez, ça reste une source d'émerveillement et d'action de grâce. Que Dieu vous donne de quelque chose d'aussi profond qui transforme radicalement tout ce que vous êtes. Alors tout doucement, hein, évidemment, on met du temps à comprendre ça, on met toute une vie sans doute. C'est sur notre lit de mort qu'on peut sans doute dire le plus qu'on croit. Mais voilà quand même des paroles hyper fortes de Jésus. Lui qui croit peut avoir la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Je continue à le verset 15. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas mais ait la vie éternelle. Donc, Jésus rajoute le danger de se perdre si nous ne croyons pas. le danger de perdre le sens profond de notre vie qui nous est donné dans cette foi que nous recevons. Et justement, si on essaye d'approfondir comment notre foi est source de vie éternelle, Sœur Jean-Thomas vous en a dit un petit mot hier en parlant du « nous » dont parle Jésus quelquefois, souvent d'ailleurs, dans ses enseignements. Jésus s'adresse très rarement à des personnes individuelles, même s'il y a toujours des personnes individuelles devant lui, mais l'enseignement, il a toujours ou presque toujours une portée universelle. Il s'adresse à un public, il s'adresse à des disciples, il s'adresse aux Juifs. Et Jésus emploie des pronoms collectifs pour montrer qu'il s'adresse à toute l'Église. Et autour du Notre Père, quand nous disons Notre Père, et bien justement, nous, en français en tout cas, nous commençons par Notre. Dieu est un Père pour nous tous. Il y a la dimension ecclésiale. Et qui est hyper importante. On ne l'a pas en français malheureusement. En allemand, ça a été mieux traduit dans les deux credos. En français, les deux credos, le petit credo, le credo des apôtres, et le grand credo, le credo de Nicée-Constantinople, commencent toujours par « je crois ». En fait, en grec, c'est pas ça. Le credo des apôtres dit « je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant », et le symbole de Nicée-Constantinople, le grand credo, dit en grec « nous croyons », « pisteomen », c'est une première personne du pluriel. « Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant ». Vous voyez, la foi, c'est à la fois une foi personnelle et une foi que nous professons au nom de toute l'Église. Donc je ne suis pas tout seul à prier, je ne suis pas tout seul à recevoir cette foi, je ne suis pas tout seul à recevoir cette vie éternelle. Et l'amour de Dieu est tellement grand qu'il peut donner à tous ses enfants en même temps cette foi qui transforme leur existence et qui fait que l'humanité en marche devient habitée et transformée de l'intérieur par l'Église. J'aime beaucoup cette vision d'Origène et de Saint-Augustin que le jeune Joseph Ratzinger avait travaillé en posant une question qu'on a complètement oubliée, donc je vous le redis, comme ça éclaire aussi votre contemplation de l'Église, où le jeune Joseph Ratzinger va chercher dans Origène et chez Saint-Augustin, donc le rapport de l'Église au monde. Si je vous pose aujourd'hui la question, aujourd'hui, enfant du troisième millénaire que nous sommes, enfant des Lumières, la laïcité à la française bien marquée, l'Église, elle est comme le levain dans la pâte dans le monde. La théologie des années 60 a développé ça ad nauseam. Vous voyez, l'Église, elle est dans le monde. Eh bien, Augustin et Origène disent le contraire. Que ce que Dieu a créé, ça n'est pas le monde. Dieu a créé l'Église. Et dans l'Église, il y a le monde, et progressivement, le monde est appelé à, vous voyez, comme l'enveloppe intérieure du ballon de foot, à s'étendre, à s'épandre pour prendre la taille de l'Église. Ce qu'il y aura à la fin du temps, ce n'est pas le monde, ce sera l'Église. Et donc, ce pas, quand il regarde le monde, Dieu voit l'Église. C'est la logique de l'histoire, d'Origène et de Saint-Augustin. C'est hyper beau ça. Et ça nous redonne un sentiment, mais intellectuel, pas un sentiment affectif, ça nous redonne notre identité collective. Le fait que le « nous croyons », il est là. Nous portons la responsabilité au nom de l'Église. Alors, ce n'est pas de l'extérieur, et c'est de l'intérieur, mais en étant plus grand que le monde qui vit aujourd'hui. Pourquoi la politique en France ou partout n'arrive pas à répondre à tous les besoins et à toutes les demandes et à toutes les difficultés du monde économique? Parce que les ressources sont limitées. On ne peut pas donner le RSA à tout le monde, 800 euros d'argent de poche, nous on va vivre, bientôt on ne vous demandera plus que 10 euros par personne pour les week-ends, parce qu'on sera tous au RSA, on aura tous 800 ou 900 euros par frère, donc le priori trop sûr vivra bien. C'est impossible que dans un programme politique, on serve tout le monde. On serve les entreprises, les pauvres, les migrants, parce que l'argent de l'État n'est pas illimité. Et quand on est un État endetté, donc les ressources limitées font que le bien commun et les actions des responsables politiques sur le bien commun sont limitées. Donc la politique est limitée. On vous promet le paradis dans les programmes politiques. Et on ne peut pas vous le donner. Et c'est normal. Moi, ça ne me choque pas que les politiques ne tiennent pas leurs promesses. Ce n'est pas une justification de faire des promesses de Gascon qu'on ne tient pas, mais c'est impossible de faire autrement. La seule promesse que Dieu peut tenir, c'est de dire
à la fin des temps, l'Église sera celle dans laquelle chacun et chacune trouvera l'accomplissement plénier de sa vocation. Mais c'est d'un autre ordre. Comme terrestre. Moi, j'ai entendu une semaine de conférence d'un juif qui était venu dans l'institut où j'enseignais, un juif américain, dire « La raison principale pour laquelle je ne peux pas croire que Jésus soit le Messie, c'est que le Messie, dans l'Ancien Testament, annonce une roi mythique. Et votre Jésus n'annonce pas comme confession de foi juive. » Qu'est-ce qu'on va répondre à ça? Plein de choses à répondre. Ça, c'est pour dire, vous voyez, que dans notre Père, nous confessons ça, ce regard contemplatif sur le fait que dans l'Église, nous savons que Dieu insuffle quelque chose qui doit féconder le monde dans lequel nous sommes. Et que c'est par l'Église que Dieu vient atteindre les pauvres, les déshérités, ceux qui souffrent. Regardez l'histoire de l'Église, et notamment l'histoire de la vie religieuse. L'Église a toujours été prophète et pionnière de l'aide sociale, de la proximité par rapport aux déshérités. L'Église a toujours inventé avant les États, qui ont institutionnalisé les choses progressives, le service aux plus démunis. Et c'est normal, ça fait partie de sa volonté. Notre Père nous dit que la vie que Dieu nous donne, il nous la donne tous ensemble pour être fervent de quelque chose qui étend l'horizon du monde jusqu'au mystère de Dieu. Et dans cette foi que Dieu me donne, eh bien, il y a l'audace du Christ sur toute l'Église de nous donner une foi commune. Et ça, c'est difficile à vivre pour nous parce qu'on n'est pas habitué. Notre foi, elle est personnelle. On va devant le Saint-Sacrement adorer son Jésus. Eh bien, oui, mais je viens adorer Jésus parce que tous mes frères, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Dieu nous révèle que nous sommes frères et que nous sommes ensemble. Comme petit point sur la paternité de Dieu sur moi est actuelle parce que son amour et son salut en Jésus-Christ sont actuels. Ça, c'est aussi hyper important. Mais Dieu ne m'a pas donné le salut dans mon baptême, une espèce de pichenette divine en disant, voilà, je te donne le baptême, maintenant débrouille-toi. Le salut proposé par Jésus, envoyé par le Père, reste actuel. Le Père lui-même vous aime, Jean 16, 17, parce que vous m'aimez et que vous croyez que je suis sorti d'auprès de Dieu. Le Père lui-même vous aime. C'est pas vous a aimé quand il vous a créé, bien sûr. Il a fallu un acte de volonté spécifique de Dieu pour que vous adveniez à l'être. Dieu vous a pensé de toute éternité et Dieu ne vous a pas voulu existant de toute éternité. Vous n'existez pas de toute éternité, vous existez dans le temps. Quand vos parents ont choisi de se donner l'un à l'autre. Vos parents ne vous ont même pas choisi en plus. Le seul qui vous a choisi, c'est Dieu. Vos parents, ils ont été ouverts à la vie. S'ils avaient su sur qui ils tomberaient, ils auraient peut-être réfléchi à deux fois. Et moi, je trouve ça extraordinaire de votre... Vous êtes tous des illuminés, chers frères et sœurs, quand vous donnez la vie. Vous voyez vraiment en vous disant, ça va être un enfant chouette, on y croit. Eh bien, Dieu est encore plus que vous. Parce qu'il ne vous donne pas le choix, vous n'avez pas le catalogue internet de QI de 190, caution émotionnelle de 225, grand bout intelligence serviable, chrétien, adorateur. Ce catalogue-là n'existe pas. Vous vous lancez dans la vie avec un tremblement en disant « pourvu que ça passe ». Et Dieu qui a voulu votre enfant et qui vous a voulu comme ça, parce que avant de commencer par vos enfants, commencez par vous, à vous regarder avec humilité. Vous pouvez dire à vos parents, ça aurait pu être pire. Eh bien, Dieu vous regarde parce que vous avez de meilleur et Dieu s'engage là-dessus. Et donc, quand Dieu s'engage, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il ne reprend pas son engagement. Et cette fameuse indissolubilité dont on nous serine les oreilles depuis Amoris Laetitia, qui a commencé avant d'ailleurs, l'indissolubilité dans les affaires humaines, elle n'est pas évidente à tenir. La seule indissolubilité, d'ailleurs ce n'est pas un mot biblique, Sœur Jean-Thomas, vous aurez du mal à vous trouver l'indissolubilité. Je vais vous dire qui est biblique et qui est théologique, elle est bien plus intéressante et bien plus profonde que l'indissolubilité, et on ne la trouve pas tellement dans les débats autour de Amoris Laetitia. C'est que moi, ce que je vois que dans la Bible, c'est que le seul engagement qui ne soit l'indissolubilité de Dieu dans son engagement pour Israël dans une alliance, ah oui, alors ça, je peux en faire la théologie en long, en large et en travers. Et quand vous regardez la réponse d'Israël comme peuple à l'engagement de Dieu, vous n'êtes pas hyper édifié. Le peuple d'Israël n'est pas un modèle, et l'Église non plus, et moi non plus. Et les pauvres divorcés remariés, en un titre particulier, comme d'autres aussi dans l'Église, eh bien, sont aussi le signe que l'Église reste en chemin. L'Église, elle ne sera jamais à la hauteur de l'absolu de l'alliance de Dieu qui ne reprend jamais ce qu'il a donné. Je ne pourrai jamais être fidèle comme Dieu est fidèle. Ce n'est pas une justification de l'infidélité que je vous dis. C'est juste pour dire qu'il y a un décalage énorme. Et que quand on parle de l'indissolubilité du mariage, la mauvaise nouvelle, c'est que si vous allez chercher des études historiques sur l'indissolubilité du mariage, elle a changé de contenu, l'indissolubilité du mariage. L'Église a toujours enseigné l'indissolubilité du mariage. Oui, mais quelle indissolubilité? Si vous voulez la littérature, j'en ai des cartons. Que le contenu de l'indissolubilité, il a changé au cours des âges. Donc de quelle indissolubilité parle-t-on? Oui, c'est bien facile de dire l'Église a toujours dit que, parce qu'en plus elle ne l'a pas toujours dit. Elle l'a pas encore, elle l'a dit de manière différente. Malheureusement, le Concile de Trente a permis les remariages dans un canon particulier, dans une situation canonique particulière. Le Concile de Trente, la grande réponse aux protestants, qui est le concile sur lequel tous les traditionalistes s'appuient, eh bien, permet le remariage de divorcés. Oh, c'est une mauvaise nouvelle, ça. C'est effroyable dans le monde germanophone autour de cette interprétation de ce petit canon, de savoir comment le comprendre, qu'est-ce qu'il veut dire. C'est l'Église catholique qui a dit ça. Donc l'Église catholique qui a toujours dit que le mariage était indissoluble, eh bien elle dit que dans certains cas il est dissoluble. Ah, vous voyez, on change de niveau de réflexion. C'est pas une histoire polémique des divorcés remariés. Ça nous demande d'entrer dans une réflexion théologique, dans une réflexion ecclésiale. De se dire, il y a quelque chose en jeu qu'il faut comprendre avec le regard de Dieu. Sinon, on va passer à côté du truc. Dans tous les lieux où je suis invité, tout le monde se frite autour de ça. Il faut toujours remonter le débat au niveau de Dieu. En disant, qu'est-ce qui se passe dans cette réflexion? Qu'est-ce que Dieu est en train de poser comme question à son Église? Et bien ça, c'est un des lieux de l'exercice actuel de la paternité de Dieu sur chacun de nous, sur le couple, sur notre cœur, sur notre foi. Le Père lui-même vous aime, c'est au présent. La paternité, elle est vivante aujourd'hui. Alors, un tout petit mot pour conclure ce... Qu'est-ce que c'est que cette paternité de Dieu pour moi? Eh bien, c'est le fait que le Père révèle son amour pour son Fils aux hommes, à moi, en me parlant, en nous parlant, et en nous donnant son Fils. Dieu est un Père pour moi, en me donnant une foi qui sauve et qui me transforme. Et mon amour de chrétien est actuellement porté par la paternité de Dieu et conduit par elle. Je ne serais pas chrétien aujourd'hui si la paternité de Dieu ne me faisait pas exister comme chrétien. Dieu me porte dans mon existence, à la différence d'un père ou d'une mère qui donne vie à son fils ou à sa fille et qui lui laisse sa liberté d'existence. Eh bien moi, la paternité de Dieu, elle est actuelle comme ce qui me fait exister en tant que chrétien. Vous voyez, c'est concret. C'est un concret profond, c'est un concret qui n'est pas sensible, j'en ai pas d'évidence au quotidien, mais c'est beaucoup plus concret que tous les autres concrets. Quand je perds mes parents, mon existence ne s'arrête pas. Thérèse d'Avila dit « Si Dieu arrêtait de me créer comme un père, je tomberais à l'instant dans le néant. » Comme homme et comme femme, sous le regard de Dieu, avec mes frères et sœurs en humanité, en chemin vers le royaume. L'amour du Christ, frère et ami, me montre jusqu'où je suis aimé. L'évangile, vous voyez, je vais continuer ce que Sergent Thomas vous a dit au point de vue biblique. L'évangile, c'est un livre de vie. Il y a quelque chose de performatif, vous disait Sergent Thomas hier dans votre petit schéma, entre le texte de l'écriture et moi, lecteur. Le texte interagit avec moi. Je vais dire quelque chose un tout petit peu forcé théologiquement. Le texte, c'est quelqu'un. C'est Jésus, il n'est pas le texte, mais il est une parole vivante qui interagit avec moi et qui me transforme. Ça veut dire que l'amour du Christ, l'amour de Jésus, c'est pas un amour abstrait, quoi. Vous voyez, quand on est habillé comme ça dans le métro à Paris, on a toujours des réflexions assez drôles, quoi. On a Alléluia, chaussée aux moines. Puis il y en a quelquefois, de temps en temps, Jésus t'aime. Alors moi, quand j'entends ça, je vais voir et je dis, mais
C'est vrai que Jésus.
Ah ouais, en fait, t'as dit une vérité. Tu dois avoir la foi pour dire ça. Alors, les copains qui ont saricané, et le pauvre ou la pauvre qui a dit Dieu aussi, se trouve classé, titanisé par un curé qui lui parle dans le métro. Comment un curé peut-il me parler dans le métro? Jésus t'aime, et c'est l'adage bête, mais qui dit quelque chose d'hyper profond. Parce que ça, dans la culture populaire, de la réalité de l'amour de Jésus pour le croyant, c'est énorme. Moi, je suis hyper content qu'on me dise ça. Jésus t'aime. Un jour, quand j'étais à la Sorbonne, c'était du temps où il n'y avait pas encore les téléphones portables, j'attendais dans une cabine, derrière une cabine téléphonique pour pouvoir téléphoner avec une carte à mon prieur pour lui dire à quelle heure je dois rentrer au train. Quoi. Et à un moment, le jeune qui téléphonait discutait avec sa petite copine et il se retourne et puis il me voit et puis je sentais qu'il est tout excité en disant « j'ai un curé derrière moi, un habit, etc. » Et puis brusquement, il ouvre la porte de la cabine téléphonique, il sort le combiné, il me dit « il y a Jésus au téléphone pour toi. » J'avais trouvé ça génial. Et même sous forme humoristique ou un peu décalée, celui qui regarde l'église de loin, il sent quand même ça. Moi, ça me touche en fait, que Jésus aille jusque-là dans sa miséricorde par rapport à celui qui ne croit pas. Il y a Jésus au téléphone pour toi. Alors, sur le coup, là, je vous le raconte en rigolant, sur le coup, j'avais eu un peu de mal à avoir la répartie, quoi, parce qu'on ne s'y attend tellement pas qu'on est un peu surpris. Alors, Jésus vient concrètement dans ma vie pour me dire que Dieu m'aime et que Dieu m'aime tellement qu'il veut partager toute ma vie. On le voit dans l'appel des premiers disciples. Alors aujourd'hui, on aura l'évangile de Saint Matthieu et pas celui de Jean. Dans l'évangile de Jean, en Jean 1, 39, on a les disciples qui demandent à Jésus « Où demeures-tu ?» Et il leur répond « Venez et voyez. » Et Jean commente « Ils vinrent donc, ils virent où ils demeuraient et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. » Le verbe « demeurer »,« meno » en grec, c'est un des termes que Jean utilise plus tard dans l'évangile pour expliciter l'immanence et la manière dont les personnes divines, la péricorèse, frère Sébastien Marie nous a invité à vivre une prière péricorétique hier soir, c'est le mot grec qui veut dire l'immanence dans l'amour et dans l'être des personnes divines, qui se compénètrent de l'intérieur. En Jean 14, 10, Jésus dit à Philippe, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Et comment on peut être l'un dans l'autre au point de vue profond? Physiquement, même le don des corps vous garde votre altérité. L'immanence, la compénétration mutuelle, elle se fait par le cœur. Et les personnes divines se compénètrent de l'intérieur en étant l'une dans l'autre. Le Père est en moi et je suis dans le Père. Il y a une intériorité mutuelle du Père et du Fils. Eh bien, Jésus explique les paroles que je vous dis, toujours verset 10 du chapitre 14, « Je ne les dis pas de moi-même, mais le Père demeurant en moi fait ses œuvres. » C'est un mot du langage courant que Jean va utiliser, ou que Jésus va utiliser pour nous dire quelque chose de la manière dont le Père et le Fils s'aiment et dont aussi nous sommes invités à entrer dans le mystère de Dieu. Nous sommes invités à demeurer aussi dans le cœur de Jésus qui nous fait demeurer dans le cœur du Père, qui nous fait demeurer dans l'Esprit Saint. Et cette demeurance, elle est aussi hyper concrète. C'est pour nous dire que l'amitié de Jésus ou l'amour de Jésus pour nous, c'est pas quelque chose d'extérieur. C'est quelque chose où Dieu vient faire sa demeure en nous. Ah, un mystique, le dernier mystique rénan, qui est à la fin du XVIe siècle, au XVIIe siècle, qui se surnomme l'ange de Silésie, Angelus Silesius en latin, qui a écrit des petites maximes hyper belles, qui sont des aphorismes, qui font 2-3 lignes, pour essayer d'expliquer l'immanence de Dieu. Et les plus belles choses qu'il a écrites, c'est sur le mystère de Noël. Et il dit, si le Verbe ne s'incarne pas en toi, alors la crèche est vide. Oui. Pour essayer de nous dire de la vie de Jésus, c'est Dieu qui vient le faire en nous. Et les mystiques ont ce sens, que Dieu vient habiter en nous, l'habitation de la Trinité dans l'âme. Et donc cette demeurance du Père dans le Fils et du Fils dans le Père, eh bien, nous sommes invités à vivre cette même intimité. C'est ça que Jésus vient nous dire, que le Dieu auquel nous croyons n'est pas un Dieu loin. Je vous appelle mes amis parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Donc la distance entre Dieu et l'homme est abolie
Et encore plus que ça, quand Jésus nous donne sa chair et son sang à manger et à boire dans l'Eucharistie, eh bien, il vient au-dedans de nous, physiquement sous les espèces du pain et du vin, et mystiquement
par sa présence d'amour.
Vous voyez, c'est hyper concret. Et plus on avance dans l'évangile de Jean, plus cette intériorité entre le Père et le Fils qui nous est donné à vivre, elle s'exprime. Et le nouveau commandement de l'amour nous dit aussi la manière dont Jésus nous aime. Un sadducéen qui lui pose la question, Jésus répond en résumant les 10 commandements. Ça, c'est dans le chapitre 22 de saint Matthieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le plus grand et le premier commandement. Le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ces deux commandements se rattache toute la loi ainsi que les prophètes. Donc Jésus fait un résumé, comme l'affiche de l'Ixio du sergent Thomas. Pour nous qui avons du mal à comprendre, les 10 commandements, Jésus va les rassembler autour de deux, et qui est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et dans l'évangile de Jean, ces deux commandements vont être encore plus concentrés dans un seul commandement. En 13, 34, 35, je vous donne un commandement nouveau, vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jésus a besoin de notre amour pour faire grandir notre lien avec lui. Ce que Sœur Jean-Thomas vous disait tout à l'heure du fait que le Père et le Fils dans la Trinité se regardent en parlant de vous, eh bien ça vaut aussi pour la terre. Il faut que nous nous aimions pour que Jésus puisse éduquer notre cœur à nous tourner vers son Père. Jésus ne peut pas nous donner la pleine mesure de son amour si nous ne nous aimons pas les uns les autres. Parce que dans l'enseignement de Jésus, dans ce nouveau commandement, justement ces deux commandements ne font plus qu'un. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus nous aime. Et l'amour les uns pour les autres devient constitutif de l'amour de Jésus pour moi. L'amour de Jésus ne peut pas aller jusqu'au bout si nous ne nous aimons pas les uns les autres. Parce que pour Dieu, nous aimer, c'est nous aimer dans toutes les dimensions de notre cœur. Mais c'est toujours, par exemple, de ça, j'ai tiré un principe pour la préparation au mariage. En disant, j'ai qu'un seul cœur pour aimer Dieu et pour aimer mon fiancé. Alors ça vaut aussi pour le couple. Est-ce que dans mon cœur, au long de ma vie de couple, le seul cœur que j'ai pour deux amours me permet de grandir dans les deux dimensions en même temps? Est-ce que l'amour de mon conjoint, je ne décide pas mieux que ça, c'est pas...
Le nouveau commandement de l'amour, c'est que Jésus nous laisse entrer dans une relation de plus en plus intense les uns avec les autres, et notre amour humain devient constitutif du regard de Jésus qui nous aime, parce qu'il ne nous aime pas individuellement, l'Église comme son épouse. Et donc, vous voyez, l'amour, il doit toujours rayonner. Et c'est pour ça que je pose toujours la question aux fiancés en disant, est-ce que le fait de vous aimer vous permet d'aimer plus Jésus? Et est-ce que le fait d'aimer plus Jésus vous permet de vous aimer? Est-ce que vous commencez à créer une symbiose dans votre cœur, entre l'amour l'un de l'autre et votre amour pour Jésus? Ça, c'est un marqueur pour un couple, toute la vie d'un couple. Est-ce que votre amour conjugal vous tourne ensemble davantage vers Dieu? Est-ce que le fait de crier l'un avec l'autre, l'un pour l'autre, l'un sur l'autre, comme on vous a proposé hier soir, eh bien, est-ce que ça vous... Le vrai dessin du cœur, c'est celui-là. Ne dessinez plus jamais un cœur comme ça. Le cœur, il est ouvert à quelque chose de plus grand que lui. Seul Dieu peut venir remplir mon cœur à satiété. Mon cœur ne peut que remplir la dimension humaine de mon cœur. Il y a encore la dimension de... Chaque fois que mon cœur va faire une expérience qualitative de l'amour, dans l'ordre de l'amour humain ou de l'amour surnaturel, eh bien ça ennoblit mon cœur qui par projection, par rayonnement, va rayonner dans l'autre dimension. Donc tout le temps, dans ma vie de couple, mon amour pour toi peut me tourner davantage vers Dieu et mon amour de Dieu va m'inviter à me tourner davantage vers toi. Et Corrèze, de l'amour humain et de l'amour divin en moi, ce baiser de Dieu dans mon propre cœur, est-ce que c'est quelque chose de vivant à quoi je travaille activement? Ou ça va de soi, donc je ne me pose pas de questions. Jusqu'au jour où les questions non posées deviennent tellement criantes qu'on est au bout du rouleau. Là, vous avez un rôle actif pour entrer dans Dieu qui vous engage, et qui vous engage de manière responsable. Il se regarde de Jésus sur nous par un texte que j'aime beaucoup, qui est dans l'évangile de Saint Jean et qui est une lecture à plusieurs niveaux. Après la résurrection, les trois questions de Pierre à Jésus. Et c'est légitime que vous, mesdames, vous disiez de temps en temps à vos maris, est-ce que tu m'aimes? Quand il dit, mais je t'ai déjà dit 20 000 fois, vous le regardez avec un sourire béat et vous lui dites, mais mon chéri, même Jésus a demandé. Ça, c'est quand même mythique. Oui, là, vous entrez dans une relation mystique avec votre conjoint. Si Jésus a demandé ça à Pierre, je me cale dans l'amour de Jésus. Je te demande, mon chéri, m'aimes-tu? Je sais bien que je t'aime. Dans cette trois questions à Jésus, de Jésus à Pierre, il y a quelque chose de caché, d'hyper beau à plusieurs niveaux. Il y a une lecture morale, une lecture théologique et une lecture contemplative. La lecture morale, c'est les trois reniements de Pierre à l'égard de Jésus sont rachetés par la triple profession de foi, par la triple confession de l'amour de Pierre pour Jésus. La lecture théologique, elle se fait à partir du grec, c'est de regarder les verbes qui sont utilisés. Saint Jean nous dit dans le scorpion, le venin est dans la queue, et dans l'écriture, la qualité de la parole de Dieu, la qualité d'expression de la parole de Dieu, elle est dans le verbe. Dans les questions de Jésus à Pierre, Simon Pierre, m'aimes-tu? En grec, c'est agapame, je ne suis pas bon en grec, donc je suis obligé de regarder agapasme, le mot, donc c'est la racine agapé. Deux fois, Jésus pose la question, est-ce que tu m'aimes d'un amour de charité? Et à ces deux questions, Pierre répond, je t'aime d'un amour humain. Philo, c'est, je t'aime comme un ami. Et la troisième fois, Jésus diminue l'exigence de la question en disant, est-ce que tu m'aimes comme un ami? Et Pierre répond, tu sais bien que je t'aime. Jésus essaye d'éveiller le cœur de Pierre, avec un campé, le cœur de Simon Pierre à une confession théologale, et Pierre a du mal et n'arrive à dire à Jésus qu'un amour humain. Et donc Jésus, après la résurrection, éduque le cœur de Pierre à essayer de découvrir son mystère théologal, le mystère de sa divinité. Et puis à partir de l'araméen biblique, donc pas du grec mais de l'araméen, les trois questions de Jésus à Pierre et les trois réponses de Pierre à Jésus comportent le même verbe, et la différence elle n'est pas dans la manière dont Jésus pose la question, elle est dans la réponse de Jésus à la réponse de Pierre. Donc Jésus dit, Simon Pierre, m'aimes-tu? C'est bien plus simple. Et Jésus dit à Pierre, trois fois de suite, d'une manière un peu différente, paie mes agneaux, paie mes brebis et paie mes brebis. Et le terme en araméen, pour chacun de ces trois agneaux, brebis et brebis, c'est trois mots différents. C'est d'abord un agneau nouveau-né, à la première réponse de Jésus, à la première réponse de Pierre. Ensuite, c'est une brebis adulte, une brebis femelle adulte. Et ensuite, c'est un mot hyper rare qui désigne l'agneau prévu pour le sacrifice. Jésus dit à Pierre de trois manières différentes, paie mes agneaux nouveau-nés, paie mes agneaux capables de donner la vie, paie mes brebis capables de donner la vie, et paie mes brebis, celles qui vont être offertes en sacrifice. Donc, le devenir de l'Église dans sa croissance, la configuration au Christ, où l'Église va apprendre comme le Christ a donné sa vie, et Pierre va apprendre à donner sa vie pour ses brebis. Et c'est pour ça que dans l'évangile de Jean, il est dit après, ce qu'on ne comprend pas si on lit simplement le grec, quand tu étais jeune, tu me disais toi-même, tu n'avais pas besoin de conduire à la vie, il fallait. Commentaire de Jean, Jésus signifiait par là à Pierre, le corps de Pierre. Pierre va être le premier à choisir d'être l'agneau, la brebis pour le sacrifice, comme Jésus a été l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Vous voyez, ça c'est hyper beau, ça nous montre que l'Église est en devenir et que Dieu regarde cette Église en devenir qui va la confier à la sollicitude de Pierre. Et donc Jésus, on pourrait dire, devient mendiant d'amour auprès de Pierre. Il a besoin de l'amour de Pierre et de la confession d'un amour qui va rester inébranlable à travers toutes les étapes de la vie de l'Église pour pouvoir lui donner toute sa confiance. Bien, nous sommes aussi Pierre pour l'Église. Nous sommes ce disciple auquel Jésus s'adresse en nous demandant un amour inconditionnel à l'aurore de notre foi, à la maturité de notre foi, dans les épreuves de notre foi, pour que Jésus puisse nous confier son Église. Jusqu'à l'Esprit Saint, rapidement. L'amour de l'Esprit, l'Esprit Saint fait continuellement grandir mon amour de Dieu et des autres jusqu'à l'infini. Et une chose très marquante, dont je vous ai dit un petit mot hier, et j'avais dit aussi un petit mot très rapidement, c'est l'originalité de l'expression pour désigner l'Esprit Saint dans l'évangile de Jean. Par 4 fois, l'Esprit Saint est nommé le Paraclétos, le Consolateur, ce qu'on ne trouve nulle part ailleurs, sauf une fois dans la première épître de Jean, où il est dit, et en fait on a la lumière sur ce qui est dit dans l'Évangile, 1 Jean 2, 1-2, « Mes petits-enfants, écrit Jean, je vous écris cela pour que vous ne péchiez point, et si quelqu'un vient à pécher, nous avons auprès du Père un paraclet, un paraclétos, Jésus-Christ le Juste. Et il est lui-même victime de propitiation pour nos péchés. » Rappelez-vous ce que je vous ai dit hier. « Hilastérion, le dessus, le plateau de l'Arche d'Alliance, qui est le lieu où le sang est aspergé et qui est un signe symbolique de la réalité de la libération apportée par le sang de Jésus. » Vous voyez, tout ça, ça se tient. Jésus est lui-même victime de propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Donc le premier paraclet, nous avons auprès du Père un paraclet, dit la première épître de Saint Jean, Jésus-Christ. Donc Jésus est le Consolateur. Et l'Esprit Saint, tel que Jean nous le révèle, il est le Consolateur qui vient nous consoler. Pourquoi Jean nomme l'Esprit Saint le Consolateur? La racine parakalein, donc consoler, on la trouve plein de fois dans le Nouveau Testament. La consolation, on la trouve aussi plein de fois. Et je vais vous lire un petit passage de la deuxième épître aux Corinthiens qui éclaire cette raison pour laquelle le paraclet, l'Esprit Saint est appelé paraclet. C'est 2 Corinthiens 1, 3, 7. Paul écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Il nous console dans toutes nos détresses pour nous rendre capables de consoler tous ceux qui sont en détresse par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu. De même en effet que les souffrances du Christ abondent pour nous, de même par le Christ abonde aussi notre consolation. Sommes-nous en difficulté? C'est pour votre consolation et votre salut. Sommes-nous consolés? Chaque fois qu'il y a le mot consoler ou le verbe consoler, c'est la racine parakalein. C'est pour votre consolation qui vous fait supporter les mêmes souffrances que nous endurons aussi. Et notre espérance à votre égard est ferme. Nous savons que partageant nos souffrances, vous partagez aussi notre consolation. » Le petit texte de Paul est bâti sur une opposition à plusieurs termes, de l'affliction ou de la souffrance par rapport à la consolation. Alors, il y a des mots grecs que je vous passe, slipsis, pathemata, et puis consolation paraklesis. Nous sommes consolés parce que nous sommes en souffrance. Et le texte de Paul montre bien qu'à chaque fois qu'il y a une souffrance, Dieu apporte une consolation. Quand Jésus nous révèle 4 fois, bon, les passages, c'est, je vous cite les 4 passages dans l'évangile de Jean où il est parlé du paraclet explicitement. C'est Jean 14, 15, 17, Jean 14, 26, Jean 15, 26, Jean 16, 7, 11. Je répète pour ceux qui veulent noter, Jean 14, 15, 17, Jean 14, 26, Jean 15, 26 et Jean 16, 7, 11. Là, à chaque fois, Jésus nous parle du paraclet. Et on peut regarder soit avant, soit après. À chaque fois que Jésus parle de l'Esprit Saint comme consolateur, Jésus manifeste une souffrance dont l'Esprit Saint va nous consoler. Vous voyez, le nom de l'Esprit Saint, c'est celui qui vient nous consoler dans une souffrance. Ce qui est très intéressant, c'est que dans les 4 lieux que je viens de vous citer, avant ou après, et aussi autour, puisque dans Jean 16, c'est avant et après, « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu, mais parce que je vous ai dit cela, la tristesse remplit vos cœurs. » Et l'Esprit Saint va enlever la tristesse de nos cœurs. Et à la fin de ce petit enseignement sur le paraclet, « Je vous dis la vérité, c'est votre intérêt que je pars, car si je ne pars pas, le paraclet ne viendra pas, etc. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter à présent. » Eh bien, si on essaie de faire l'unité doctrinale de ces 4 passages où Jésus nous parle du paraclet, ce dont le paraclet vient nous consoler, c'est l'Esprit Saint, c'est celui qui vient nous consoler de l'absence de Jésus remonté vers le Père. C'est pour ça que la première fois dans l'évangile de Jean où Jésus parle du paraclet, Eh bien, la première fonction du paraclet, il faut encore regarder les verbes. Qu'est-ce que fait le paraclet? Il fait plein de choses différentes et c'est passionnant de faire ce petit travail. Une belle lectio divina pour la Pentecôte. Eh bien, je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet pour qu'il soit avec vous à jamais. L'Esprit Saint est donné à l'Église pour accompagner la vie de l'Église à jamais. L'Esprit Saint est donné, l'amour lui soit donné à jamais. Voilà la racine de l'indissolubilité, c'est que l'Esprit Saint vous est donné à jamais. Et après, vous allez en faire ce qu'il y a de plus grand pour votre vie. Et peut-être que ça ne sera pas forcément que le plus grand que vous arriverez à faire. Mais en tout cas, l'Esprit est donné pour qu'il soit avec nous. Et ça nous fait faire une expérience de l'amour de Dieu qui est totalement incroyable. Et la paternité de Dieu, elle est actuelle. L'amour de Jésus, il est actuel et il est efficace. Et parce que Jésus est remonté vers son Père, eh bien celui qui nous donne l'expérience la plus vivante de l'amour de Dieu, c'est l'Esprit Saint. J'avais trouvé même un petit pas qui disait, quand il essaie de regarder la grâce, il disait que Jésus, c'est la source de la grâce en nous. Mais l'animateur de la grâce, l'animateur gratier, c'est l'Esprit Saint. Celui qui vit la grâce de manière concrète dans mon cœur, c'est l'Esprit Saint. Le visage le plus explicite de l'amour de Dieu pour moi, c'est l'Esprit Saint. Pneumatique, comme vous disait Sœur Jean-Thomas hier. Pathologique, animé par l'Esprit Saint. Ça s'appelle, en terre chrétienne, une vie mystique. Bienvenue au club des mystiques. Vous ne pouvez pas être chrétien sans parce qu'être mystique, c'est accepter que l'Esprit Saint soit avec vous pour toujours. Et pas comme une promesse abstraite, mais pas comme une promesse que Jésus ne tient pas. Mais si je ne pars pas, le paraclet ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et il vous fait mon cœur dans tout ce que mon cœur a donné une audace infinie. Chaque fois que vous osez aller plus loin dans l'amour, faire des choix audacieux, du côté du don de la vie, du côté des choix professionnels par rapport aux choix familiaux, du côté des engagements dans l'Église, du côté de la confession de votre foi dans un milieu qui n'est pas hyper porteur, eh bien, vous ne pouvez pas le faire sans l'Esprit Saint. Donc si vous ne priez pas l'Esprit Saint, si vous n'entrez pas dans une intimité avec l'Esprit Saint, vous ferez des choix qui sont des choix humains, toujours contestables. Comment se mettre sous la dépendance de l'Esprit Saint? Comment animer? Enfin, on va le regarder un petit peu. Essayer d'entrer encore une étape de plus, parce que là, je vous montre que les personnes divines nous disent quelque chose de l'amour de Dieu pour moi. Et cet après-midi, on va oser quelque chose d'encore plus difficile. Regardez que la communion des personnes divines, c'est-à-dire que les personnes divines ne sont pas simplement chacune en train de m'aimer, chacune à son tour, de 8h à midi c'est le Père, de midi à 16h c'est le Fils, et de 16h à 19h c'est l'Esprit Saint. Et après, il n'y a plus personne. La Trinité va se coucher parce qu'elle est épuisée d'avoir essayé de transformer la vie. Il y a aussi la communion des personnes divines, c'est-à-dire cet amour vivant et actuel entre les personnes divines qui est la source actuelle de l'amour entre les personnes humaines du couple. L'altérité vécue, vivante, le dynamisme de l'amour, eh bien, il est aussi actuel pour votre couple. Et on va essayer de regarder, c'est assez délicat, je vous présenterai juste quelques réflexions, parce que au bout de la réflexion, j'ai trouvé ça dans aucun livre, j'ai essayé de regarder, il n'y a rien à faire avec votre couple, c'est une mauvaise nouvelle. Ben si, mais c'est délicat, il faut manier les concepts avec précision, il ne faut pas mélanger les niveaux, et pourtant il faut arriver, si ce qu'il y a de plus profond dans la Trinité, c'est son unité, eh bien, il n'y a pas de possibilité que l'unité de la Trinité ne soit pas une source d'unité pour votre couple. Comment se fait le passage de l'unité des personnes dans la Trinité à l'unité de mon couple? On passe de 3 à 2, on passe de l'incréé au créé, on passe de l'illimité au limité. Et pourtant, il y a un... Voilà, je vais arrêter là, et pour vous laisser profondément insatisfait, volontairement, vous voyez, il y a un aspect marketing dans ce que je fais, c'est pour revenir, pour... version, une série qu'on lance, une série trinitaire dans votre couple, de vos cœurs, à cette actualité de la présence des personnes divines dans votre cœur. Et donc vous allez faire quelque chose, et donc vous faites déjà quelque chose au quotidien, sans trop le savoir, et là vous allez pouvoir le nommer un peu plus, et c'est ça qui va vous donner un dynamisme nouveau. Enfin, allez, célébrer
à la messe, cette présence du mystère de la Trinité dans nos cœurs, et puis on continuera cet après-midi à 15h. Vous avez un temps libre, vous allez marcher à 14h. On reprendra 15h et puis on finira par un petit temps de prière si notre ami Michel est disponible. Au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.